Bernard Minet, Metal Band. Bah quand t'as une bonne idée de nom de groupe, surtout, faut pas hésiter. Hein. N'empêche que c'est une super idée. Une idée chelou peut-être, mais une super idée quand même. Mais chelou, écoutez. Mais, ah, ça pique, hein. Pauvre vieux man. Ok, c'est naze, mais le principe est courageux et il mérite qu'on pousse l'expérience quand même un petit peu plus loin. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on serve j'en pleure, on rit, il y a des méchants et il y a des gentils. Trop bien, non? Et pas que pour les dessins animés, le métal pourrait aussi signer le grand retour de vedettes comme Chantal Goya.
Bandi, panda, petit ourson de Chine. Bandi, panda, on te protégera. Ce matin, un lapin a tué Bécassine.
Les contemporains français devraient s'y coller aussi. Eh, Vianney en métal.
Ah,
Vianney, c'est peut-être bien.
Ah, oui.
Allez savoir.
T'es où, pas là, pas là, mais t'es où? T'es où, t'es pas là, t'es pas là, t'es où? Mais t'es où, t'es pas là, pas là.
Et pourquoi pas essayer l'ambiance métal pour toute autre chose. Prenons un autre individu en perte de vitesse, Emmanuel Macron, pour les vœux de fin d'année.
Français, français, si je sais que vous souffrez, il y a eu un grève et vous en avez chié. Désolé pour les retraites, mais j'étais obligé. Du fond du cœur, j'étais mort, c'est une bonne année. Vive la France et n'oubliez jamais, bientôt on sera heureux, parce que c'est notre projet.
Et sur Inter, laissez-moi dire qu'il y en a un qui ferait ça à merveille. Vous avez compris de qui je voulais parler, bien évidemment. On l'a vu débouler ce matin, tout en cuir, avec sa crête sur la tête. Il est prêt. Il s'agit, bien sûr, de Nicolas.
France Inter, bienvenue dans le 7-9. Je suis pas tout seul, il y a aussi Léa. Léa, c'est ma meuf.
Demorant. Qui, à 8h20, recevra François Lecointre pour parler friteuse électrique et touillette en carton.
Je vais vous laisser enchaîner, Nicolas oui. et Léa. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour à Mathilde. Tous.
France Inter, il est 7h.
France Inter, le 7-9, première matinale de France. Léa Salamé, Nicolas Demorand.
Et nous sommes le mercredi 27 novembre. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les premières cérémonies d'hommage aux 13 soldats de la force Barkhane tués lundi soir au Mali dans un accident d'hélicoptère lors d'une opération contre des djihadistes. On va en parler avec un invité exceptionnel ce matin. Tout à l'heure dans le grand entretien, le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. Les autres titres, Agnès.
Les premiers ralentissements autour de Paris, un millier de tracteurs à l'assaut de la capitale pour exprimer la colère des agriculteurs, la Commission européenne sur les rails pour une politique plus verte, le témoignage bouleversant d'une victime du chirurgien pédophile de Jonzac, et puis l'annuaire papier, c'est fini ou presque, les derniers exemplaires sont en train d'être distribués.
Et votre invité à 7h50, Léa.
La France est en deuil après la mort de nos 13 soldats, parenthèse d'unité nationale dans un climat politique et sociale tendue. On reçoit le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure.
France Inter.
Drapeau en berne, minute de silence, portrait posé sur une estrade. Un premier hommage a été rendu hier soir aux militaires français de l'opération Barkhane qui ont trouvé la mort lundi soir. Deux hélicoptères se sont heurtés lors d'une opération contre des djihadistes aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les boîtes noires viennent d'ailleurs d'être récupérées, ce qui permettra d'en savoir un peu plus sur les conditions de cet accident. 7 des 13 victimes appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, où une série cérémonie était donc organisée hier soir. Reportage de Faustine Calmel.
C'est une ville endeuillée mais unie, foule au coude à coude, rassemblée devant la mairie, les militaires au premier rang et cet ancien du 5e régiment passé par le Liban, le Tchad et le Koweït.
Dans les zones désertiques, avec la poussière du sable, les sables qui enrayent les hélices, une fausse manœuvre, ça y est quoi. Je m'en doute qu'est-ce qu'ils ont vécu quoi, je suis un peu à leur place quoi.
Partager la douleur, épauler les familles et les proches, c'est aussi le souhait du maire.
Je veux leur dire à quel point nous avons l'intention de partager deux sentiments. Un sentiment de chagrin, d'arrachement. Et le deuxième, c'est un sentiment de reconnaissance.
François Bayrou égrène ensuite les noms des 7 soldats de Pau.
Capitaine Nicolas Mégard.
Mort de la France.
Lieutenant Alex Maurice.
Mort de la France. Enfants de la patrie.
Beaucoup d'admiration. Armel se rappelle Alex, charmant, souriant, compagnon de l'une de ses plus proches amies.
Beaucoup d'engagement. Je trouve leur métier admirable. Et j'ai un profond respect pour eux. Ils sont des hommes courageux.
Des hommes à ne pas laisser tomber dans l'oubli, renchérit Valérie.
On ne peut pas vivre, continuer notre vie en ignorant ces sacrifices-là, ils sont trop importants. C'est important d'être présent pour leur témoigner à eux et à tous leurs frères d'armes qu'on n'est pas indifférent à ce qu'ils font pour nous.
Et la cicatrisation sera longue, confie une femme de militaire. Même si on le sait, dit-elle, cela faisait partie de leur destinée.
Cérémonie hier soir également dans le Vaucluse, en hommage aux quatre soldats du 4e régiment de chasseurs de Gap tués dans cet accident. En attendant l'hommage national qui leur sera rendu aux Invalides par le chef de l'État dans les tout prochains jours. Députés et sénateurs ont observé hier une minute de silence, mais les élus de la France insoumise n'ont pas attendu pour demander un débat sur le sens de l'engagement français au Sahel qui a coûté la vie à 41 soldats français depuis 2013.
Il est 7h04, Agnès, la journée de colère des agriculteurs.
Qui dénonce les prix toujours plus bas pratiqués par la grande distribution, mais aussi les agressions et la suspicion généralisée sur leurs pratiques. Ils ont donc décidé ce matin de bloquer Paris. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Vous êtes aux Ulysses dans l'Essonne, alors comment ça se passe ?
Eh bien très concrètement, il y a plusieurs points de rendez-vous dans le secteur, hein, tout autour de nous. Ici aux Ulysses, depuis 6 heures, ce sont une quinzaine de tracteurs qui se sont donné rendez-vous et qui partent d'ailleurs à l'instant en convoi escorté par les forces de l'ordre pour rejoindre un autre point de rendez-vous et faire la jonction avec encore plus d'agriculteurs et encore plus de tracteurs, tous ceux en fait qui arrivent de cette partie sud-ouest de Paris. Et l'objectif, eh bien, c'est bien de faire route vers Paris en empruntant à plusieurs dizaines de tracteurs l'autoroute A10, de quoi très sérieusement perturber la circulation. Alors ces agriculteurs, eh bien ils dénoncent pêle-mêle la loi alimentation promulguée il y a un an, mais sans résultat, disent-ils, les accords de libre-échange avec des pays beaucoup moins regardants que le nôtre sur les normes et les réglementations, et ces polémiques sur les zones de traitement 5 mètres, 10 mètres, 150 mètres autour des habitations, ils se sentent mal aimés, c'est vraiment ce qu'ils racontent tous, une profession dénigrée, déconsidérée, et aujourd'hui, en tracteur, ils viennent le dire à Paris.
Manuel Ruffez, aux Ulysses avec François Rivalan pour les moyens techniques. Social encore avec la réforme des retraites et la fermeté affichée hier soir par Édouard Philippe. Le Premier ministre a rencontré les parlementaires de la majorité et le message transmis par Matignon est celui de la détermination à mettre en place un régime universel. Il n'y aura pas de clause du grand-père, a redit Édouard Philippe, et le gouvernement accélère son calendrier avec des annonces d'ici mi-décembre. Emmanuel Macron, de son côté, a assisté hier soir aux 80 ans du CNRS, l'occasion de réaffirmer son ambition de consacrer 3% du PIB à la recherche contre 2,2% aujourd'hui, pour permettre à la France de rester au plus haut niveau international. Sophie Bécherel a assisté aux discussions entre le chef de l'État et plusieurs chercheurs venus plaider leur cause.
Les 6 chercheurs du CNRS invités à s'exprimer ont été unanimes. La recherche française manque de moyens humains et financiers. Raphaël Rodriguez a Bac plus 15, de très grands prix internationaux et pourtant il gagne 3 400 euros par mois, dont une prime de 600 euros. C'est dissuasif pour les jeunes, a-t-il expliqué à Emmanuel Macron.
Un petit jeune qui commence au CNRS, il va commencer à 1 800 euros par mois. Si c'est des gens qui ont fait 6 ans aux États-Unis, qui ont 2 enfants, qui habitent à Paris près de leur institut pour être efficace et travailler, habiter pas loin de là où ils travaillent, ils ne peuvent littéralement pas vivre.
Le président lui a répondu « Je serai au rendez-vous pour la loi de programmation prévue l'an prochain ».
On ne peut pas penser la puissance économique française et européenne sans penser la force et l'investissement dans la recherche. Ça fait des décennies qu'on parle des 3%. Je crois que cet objectif doit être réaffirmé, mais en nous donnant à travers cette loi de programmation aussi les moyens de la part publique qu'on y alloue.
Pour Ika Polpon, chercheuse en biologie marine, la loi devra aussi assouplir les statuts.
On développe des programmes de recherche sur la pollution plastique et depuis 5 ans, on a cet ingénieur qui a développé une expertise quasiment unique en France. On ne peut pas la recruter puisqu'il y a l'application de la loi Sauvadet qui fait qu'on ne peut pas multiplier les CDD, ce qui est une bonne chose par ailleurs, mais qui ne permet pas non plus de CDIser. Donc c'est très difficile.
Elle n'est pas ressortie totalement convaincue de la soirée, à l'inverse de Raphaël Rodriguez, qui estime que le président a bien compris les messages, notamment l'allègement des formalités administratives.
Reportage de Sophie Bécherel. C'est le jour J pour la Commission européenne. Les eurodéputés réunis à Strasbourg devraient valider aujourd'hui la commission présidée par Ursula von der Leyen, avec un mois de retard et de nombreuses péripéties. La priorité de la future commission est maintenant de peaufiner son pacte vert pour l'Europe, dont les grandes lignes devraient être annoncées dès le 11 décembre prochain. Angélique Boin.
Devenir le premier continent climatiquement neutre au monde, voilà l'ambition d'Ursula von der Leyen. Et pour y arriver, elle a promis des mesures concrètes dans les 100 premiers jours de son mandat. Elle est très attendue sur le sujet, estime l'eurodéputé social-démocrate Raphaël Glucksmann.
Le Green New Deal, c'est véritablement le projet des 5 prochaines années. C'est ce qui déterminera en fait si cette commission est un échec ou une réussite.
Taxe carbone aux frontières, plan d'investissement de 1000 milliards pour développer massivement l'économie verte. Tous les secteurs et pas uniquement les transports, l'isolation ou les renouvelables seront concernés, explique Pascal Canfin, le président de la commission environnement au Parlement.
C'est pas seulement le climat, le Green Deal, c'est aussi la santé, c'est la question des pesticides, la question des perturbateurs endocriniens, c'est la biodiversité, la question de la politique agricole commune, par exemple, et c'est la question de l'économie circulaire avec les plastiques.
Pour Greenpeace Europe, on est peut-être à un tournant, admet son porte-parole, Marc Bredy, à condition que les mesures prises soient radicales et rapides.
Dans le secteur des transports, par exemple, interdire les vols en dessous de 500 km et les remplacer par du rail, taxer le plastique. Le plastique, c'est du pétrole. Placer des panneaux solaires sur tous les nouveaux bâtiments qui sont construits en ce moment. Ce qui compte, c'est les mesures qu'on peut prendre maintenant.
Légiférer vite et fort, un véritable défi pour l'Union européenne qui ne se construit qu'avec des compromis. À Strasbourg, Angélique Bouin, France Inter.
Le pape François a annoncé hier dans l'avion qui le ramenait de son voyage à Nagasaki et Hiroshima vouloir inscrire dans le catéchisme de l'Église le caractère immoral non seulement de l'usage mais même de la possession d'armes atomiques. Retour en France avec le témoignage d'une des 250 victimes présumées du chirurgien de Jonzac. L'homme aurait abusé d'enfants malades durant 30 ans dans plusieurs hôpitaux. Certaines victimes se souviennent des gestes du chirurgien, d'autres au contraire ont occulté les agressions. C'est le cas de cette jeune femme que Sophie Parmentier a rencontrée.
Elle préfère qu'on ne donne pas son vrai prénom et parle de sa grosse dépression quand les gendarmes lui ont révélé qu'elle était sur la longue liste des victimes que Joël Le Squarnec recensait lui-même dans d'effrayants carnets où il détaillait de façon sordide comment il agressait les enfants. Elle était une fillette de 10 ans quand le chirurgien a écrit dans 3 paragraphes d'un de ses carnets, comment il l'avait violée après l'avoir opérée de l'appendicite.
J'ai un premier passage où il parle de moi sur ma table d'opération. Un second passage qui parle de mon viol dans ma chambre le lendemain matin. Et un troisième passage où justement il était revenu me voir, mais il était un peu déçu de ne pas me voir. Voilà. Parce que j'étais notamment partie aux toilettes. Après qu'il m'ait violée.
Un viol indicible pour cette fillette qui n'a jamais rien raconté et a grandi sans avoir conscience de son traumatisme, amnésie traumatique instinctive qui la bouleverse aujourd'hui.
Pourquoi je m'en rappelle pas? Pourquoi j'en ai pas parlé à mes parents? Vous imaginez, vous découvrez quelque chose que vous avez occulté et qui fait partie de vous parce que vous avez tout ce poids sur le dos.
Elle comprend enfin pourquoi elle a toujours eu tant de mal à supporter qu'un homme la touche et elle va se battre désormais pour que le chirurgien pédophile paye pour ce qu'il lui a fait, conclut-elle.
Témoignage recueilli par Sophie Parmentier. 2-2, match nul hier soir entre le Real Madrid et le PSG en Ligue des Champions. 2 buts de Karim Benzema côté madrilène, puis but de Mbappé et Sarabia côté parisien. Le PSG qui termine en tête de sa poule. Ce soir, match décisif pour Lyon qui se déplace sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg et Lille reçoit l'Ajax Amsterdam.
Et enfin, vous avez demandé le 22 à Asnières, ne quittez pas.
Asnières où vit Étiennette, 80 ans, qui a bien du mal à se résoudre à la fin du Botin. Les derniers exemplaires des pages blanches seront distribués d'ici la fin de l'année, à condition de les commander sur Internet. C'est une décision de la société Solocal qui dit perdre de l'argent avec le papier et préfère donc désormais réorienter ses activités vers le numérique. Thibault Lefebvre a rencontré Étiennette, Botin à la main.
Le bon vieux Botin, mode d'emploi.
Ah voilà, je cherche une amie, son nom. Je retrouve son numéro là.
Des coordonnées imprimées en tout petits caractères et rangées par ordre alphabétique. Étiennette a reçu son premier annuaire en 1958.
Il y avait pas les portables, il y avait pas. On était bien contents de les trouver ces bottins. Tout le monde n'a pas Internet. Moi je l'ai, mais ça m'énerve des fois. Le bottin, vous trouvez tout de suite. Internet, il vous pose toujours un tas de questions alors. C'est clic, 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 enfin avec ses doigts. Mais quelquefois, vous pouvez le faire avec la parole.
Avec les assistants vocaux.
C'est ça. Alors, c'est pas facile parce qu'ils répondent pas à votre question, du coup.
Illustration.
Je voudrais le numéro de téléphone du fleuriste Nervure. Là, il me répond. Je pense que c'est le sien.
Vous n'êtes pas sûr?
Bah, attendez, je vais le contrôler.
Vous vérifiez sur le bottin?
Oh, c'est pas celui que m'a donné... Google
avait pourtant le résultat, mais Étiennette ne l'a pas trouvé. Elle reste évidemment bien plus à l'aise avec le bottin.
Tout ce qui est bien, on nous le supprime. C'est une sécurité d'avoir quand même ça pour les personnes qui n'ont pas toutes les nouvelles techniques, Internet et tout ce qui s'ensuit. Faut penser aux personnes âgées.
Les personnes âgées et les autres qui pourront encore consulter les pages jaunes l'année prochaine. La fin de la distribution de l'annuaire des professionnels est-elle prévue ? pour 2021.
Et pour célébrer comme il se doit ses derniers bottins, ce local promet de produire quelques éditions collector.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le Zoom avec la suite de notre série de reportages consacrée à la COP25. Direction aujourd'hui le Cameroun.
Aujourd'hui sur France Inter, Martin Scorsese et dans Boomerang.
9h05, Augustin Trapenard.
Le cinéaste réunit De Niro, Pesci, Kettel et Pacino pour un immense film de gangster.
I'm a filmmaker.
Signé Scorsese.
Boomerang, le rendez-vous culture de France Inter.
Du lundi au vendredi à 9h05, évidemment.
Le transporteur 6 points est arrivé. Venez découvrir ses technologies innovantes ainsi que nos autres utilitaires Volkswagen et profitez du crédit bail à 0% avec extension de garantie à 1 euro. Le transporteur 6 points, tellement innovant que même notre réclame semble dépasser.
Crédit bail à 0% sur 36 mois et 90 000 km maximum sur Caddy Van, Caddy Maxi Van, transporteur et crafter immatriculé jusqu'au 31 décembre 2019 si acceptation par Volkswagen Bank. Garantie additionnelle sur la durée du crédit bail en loyer de 1 euro par mois. Détails sur volkswagen-utilitaire.fr.
France Inter, il est 7h14.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Allez, petit coup de chapeau à Géraldine Allot, notre consoeur de la rédaction d'Inter. Elle est la lauréate du prix reportage Radio France 2019. 80 secondes pour réécouter ce matin un extrait de son reportage primé sur l'homophobie. Homophobie, la sale parole libérée.
Brahim Knight Balk parle pendant plus d'une heure et demie devant une dizaine de jeunes de 18 à 25 ans en recherche d'emploi.
Tout de suite, je me sentais différent des autres. J'avais une sensibilité pour les garçons. Je me considérais comme quelqu'un de pas normal du tout.
Les insultes, les agressions sexuelles, le sentiment de honte et de rejet, Brahim raconte tout.
C'est fou le temps que j'ai perdu parce que je me dis, j'aurais pu le dire avant que j'étais homo et j'aurais pu finalement avoir une meilleure vie que celle que j'ai eue jusqu'à maintenant en fait. C'est ça qui est terrible.
Qui ça embête de voir deux hommes s'embrasser? Et soyez honnête. Hein.
Moi je trouve ça dégueulasse. Après, c'est comme moi, je...
Tu as le droit, bien
Vous sûr. Avez le droit d'avoir votre vision. Si demain, vous aviez un enfant homosexuel, comment vous réagirez?
Comment?
Je le tège.
Tu le tèges?
Ça veut dire quoi?
Je le balance.
Vous le balancez?
Et c'est avec une patience infinie que l'éducateur cherche à déconstruire ses préjugés.
Et vous pouvez réécouter l'intégralité de ce reportage très fort de Géraldine Allot sur la page de l'émission Interception sur notre site internet franceinter.fr. Le Zoom.
How dare you continue to look away?
Je suis contre la déforestation sauvage que mon pays subit dans certaines régions que nous connaissons. Sans forêt, il n'y a plus de vie, ça devient le désert, non?
Et la suite de notre série de reportages sur la lutte contre le réchauffement de la planète avant la COP25 qui démarre lundi à Madrid. Aujourd'hui, direction donc le Cameroun, ce pays d'Afrique centrale a décidé de lutter contre la déforestation en plantant des milliers d'arbres pour protéger la planète. Mais pas toujours facile de concilier reboisement et agriculture. Reportage sur les hauts plateaux à l'ouest du pays, Célia Kiré.
La route est boueuse, chaotique, mais dans son pick-up, Désiré Raphaël Bichébé surveille ses nouvelles plantations comme la prunelle de ses yeux.
Voilà des champs de fruitiers, voilà des pruniers, des bananeraies également, il y en a des étendues. L'intérêt, il est immédiat. Avec les arbres qui sont à l'intérieur, là, vous ne pouvez plus brûler. Et cette route, effectivement, ce sont des routes d'accès couvertes par la commune.
Cet homme est le maire de Tonga, petite commune très verte où la terre est rouge et fertile. Il a une obsession, planter des arbres et protéger l'agriculture pour que la population vive, tout simplement.
Oui, en mars 2018, nous avons planté sur 3 hectares et demi des plants de safoutier. Tous ces pruniers qui aujourd'hui, il y a un an et demi, commencent à grandir. C'est un intérêt économique. On a reboisé utile, c'est un double enjeu. On protège l'environnement en nourrissant la population, en créant l'emploi, en sécurisant, n'est-ce pas, également les terres.
Vous dites vraiment que ces arbres, personne ne viendra les couper?
Même par simple coutume, personne ne détruit ce qui nourrit l'homme.
Ici, le maïs cohabite avec des pruniers. Un peu plus loin, des cacaoyers au cabos, rouges vifs, apparaissent tout à coup sous une forêt dense. Preuve qu'il n'est pas nécessaire de tout raser pour avoir du cacao. Christophe Ducastel finance en partie ses opérations de reboisement pour l'Agence française de développement.
C'est une plante qui présente cette caractéristique de se développer sous ombrage. On peut effectivement développer sous des écosystèmes forestiers des cultures cacaoyères et donc proposer aux agriculteurs des zones forestières une activité économique valorisante qui ne dégrade pas trop l'écosystème forestier. C'est un compromis intéressant entre préservation des ressources naturelles et développement d'une activité économique.
Et ces nouveaux manguiers ou avocatiers nourrissent la population, les femmes cultivent autrement, sans abîmer la forêt.
On a aussi mieux récolté des choux, maïs, carottes, poireaux.
Mais avant, ça, vous détruisiez les arbres ?
On détruisait tous les arbres qu'on trouvait dans les champs avant le travail.
On a planté des avocatiers, des manguiers, des eucalyptus qu'on est parti planter au sommet là. Quand ça va produire, ça va nous aider. Notre commune va en profiter.
Le maire de Tonga, avec son écharpe aux couleurs du Cameroun bien serrée autour de la taille, apprécie le sourire de ses femmes. Mais pour lui, cette opération de reboisement est loin d'être terminée.
Le danger en matière de reboisement, c'est que quand on a planté les arbres, qu'il n'y a pas de suivi en termes d'entretien, vous recommencez tout à zéro. Pour atteindre un bon résultat, cela demande un sacerdoce et beaucoup de sacrifices. On a besoin des moyens financiers.
Or, ce reboisement est stratégique pour le Cameroun qui rêve de protéger sa forêt. Deuxième poumon vert de la planète, Alain Thomas, technicien des eaux et forêts, sait que son pays a un rôle crucial à jouer.
Vous voyez bien la forêt, elle existe encore. C'est également un piège à carbone. Nous jouons ce rôle déjà à l'échelle mondiale. Quand nous protégeons la forêt au Cameroun, ça a un rôle dans le monde. Ce n'est pas seulement pour les Camerounais.
Et si le Cameroun arrive un jour à mesurer combien de CO2 il pourrait stocker dans sa forêt, il pourrait entrer sur le marché mondial du carbone et recevoir de l'argent d'autres États en compensation. C'est tout l'intérêt de ces dispositifs pour Christophe Ducastel de l'Agence française de développement.
Il vise effectivement à proposer aux Camerounais une rémunération pour la préservation de leur stock. Ça prendra du temps, car ce n'est pas un exercice facile, mais ça se mettra en place, très probablement.
Protéger la forêt pourrait donc rapporter de l'argent au Cameroun. Le gouvernement le sait, il prévoit de planter 2 millions d'arbres par an. Mais en attendant, il privilégie trop souvent, selon les ONG, les intérêts des industriels du bois, du caoutchouc ou de l'huile de palme. La lutte contre la déforestation est, comme les routes, très chaotique.
Merci Célia Kiré. Demain, nous serons à Rotterdam, aux Pays-Bas. Cette ville située sous le niveau de la mer, mais qui innove pour faire face au changement climatique. Il est 7h20.
Le 7-9. Sur France Inter.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Nicolas.
Mathieu, ce matin dans l'édito carré, l'histoire d'un dompteur de cirque né dans l'une des plus grandes familles de circassiens de France qui a décidé de ranger son fouet.
Il s'appelle André-Joseph Bouglione. Avec son épouse Sandrine, il a fait l'essentiel de sa carrière dans les numéros de domptage de tigres, de lions ou d'éléphants. Un jour, face à un de ces tigres blessé à la patte, André-Joseph Bouglione décide de ne pas faire participer le félin à son numéro. Mais en voyant partir ses congénères sur la piste, l'animal est totalement perturbé. Il se met à s'agiter violemment malgré sa blessure. Le dompteur en éprouve un profond malaise et face à l'absurdité de son activité, cet enfant de la balle décide d'abandonner le cirque traditionnel.
Alors comment a été reçue sa décision dans le milieu circassien ?
Eh bien très mal, vous vous en doutez. André et Joseph Bouglione s'est mis toute sa famille à dos. Il est devenu le mouton noir du clan, mais dans un contexte général où le public cautionne de moins en moins les spectacles avec des animaux en captivité, de nombreux circassiens commencent à douter et à penser à l'évolution de leur profession. L'association Code Animal a également été l'une des premières, il y a 10 ans, à sensibiliser à la maltraitance des animaux sauvages en captivité dans les cirques. Ils ont publié un rapport montrant que ces bêtes n'ont pas leur place en captivité. Transport long, déplacement constant, captivité entraînant des stéréotypies, c'est-à-dire des comportements répétitifs, techniques de dressage ou position contre nature, les conditions de détention ne sont pas en accord avec les impératifs biologiques des animaux. Des tigres détenus avec des lions ou des éléphants isolés alors qu'ils vivent en groupe en sont de tristes illustrations. Mais les choses commencent à bouger et les villes qui interdisent les cirques avec des animaux sauvages sont de plus en plus nombreuses. Elles seraient plus de 400 en France selon Code Animal. Fin 2018, une quarantaine de pays dans le monde, dont 28 en Europe, avaient proscrit partiellement ou totalement les cirques avec ménagerie. Parmi les pays l'interdisant totalement, l'Italie, la Belgique ou encore le Portugal. Paris a voté ce vendredi la fin de la délivrance d'autorisation d'occupation de terrain pour les cirques qui présenteront des spectacles avec des animaux sauvages. Cette décision doit entrer en vigueur dès 2020. La décision va s'accompagner d'aides financières pour permettre à ces cirques d'engager une reconversion. Mais les associations comme Code Animal réclament une loi contre les animaux sauvages dans les cirques. En attendant, André-Joseph Bouglione veut se lancer l'année prochaine dans le tout premier éco-cirque, un cirque pédagogique qui n'utilisera plus de camions pour se déplacer, mais les voies ferroviaires ou fluviales, et qui promet d'utiliser l'énergie solaire et des costumes vegan sans cuir, ni soie, ni plume. Comme titrait Libération il y a quelques jours avec son éco-cirque 100% humain, Bouglione fait un sans faune. André-Joseph Bouglione sera l'invité cet après-midi de la Terre au Carré avec Alexandra Morette, la présidente de Code Animal.
Merci Mathieu et rendez-vous à 13h30.
France Inter. Le 7-9.
Et bonjour André Manoukian.
Bonjour Nicolas.
Ce matin, André, les plus belles chansons de Nougaro, revisitées par Yvan Cassard, maître arrangeur, et chantées par Nathalie Dessay.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Ils peuvent tous partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi.
Et oui Nicolas, attention émotion. Quand une des plus belles voix lyriques au sommet du ciel des sopranos légers, une des voix les plus souples de celles que l'on compare à une flûte parce qu'elle grimpe jusqu'au suraigu, dessinant des arabesques à volonté, quand une de ces voix qui s'est frottée aux plus grands chefs de la planète, aux plus grands orchestres symphoniques, aux plus grandes scènes d'opéra, aux plus grands metteurs en scène, quand une de ces voix redescend de son piédestal pour chanter les belles chansons d'un tendre mauvais garçon, d'un boxeur ténor qui envoyait les métaphores comme des uppercuts de ses quatre boules de cuir qui dansaient dans la lumière, et ben moi je dis juste, mais que c'est beau!
Quel est le film, le scénario qu'il te faut tourner de nouveau? Et dans quel néant si avais-tu donc...
Michel Legrand disait « J'adore la chanson, pour moi c'est un opéra de 3 minutes ». C'est en l'interprétant que Nathalie Dessay a atterri en douceur sur la terre des chansons. Il lui fallut retrouver sa voix d'ado, celle avec laquelle elle avait tant de plaisir à chanter Brel, Brassens ou Barbara. Oublier le lyrique, réapprendre la simplicité d'un beau timbre grave. Elle a beaucoup travaillé pour retrouver le plaisir de chanter pour soi. Nathalie Dessay, comme l'ange des ailes du désir de Wim Wenders, s'incarne, éprouve la douleur d'une vie mortelle et aussi goûte les petits plaisirs qui vont avec. La chaleur d'une tasse de café dans la morsure du froid, l'extase d'une histoire d'amour. Qui mieux que Nougaro pour chanter tout ça ?
Tiens-toi bien à mon cœur, car l'amour ça va, ça va, ça va vite. Accroche-toi bien à mon cœur, tout autour de nous le monde est en fuite. L'amour tu ne savais pas, ça fonce tout droit, soudain la route nous quitte. Y'a un mur, un virage et le beau voyage qui vole en éclats.
André, que faut-il comme qualité pour chanter Nougaro ?
De la gourmandise, Nicolas ! Chanter Nougaro, c'est s'en mettre plein les papilles. C'est retrouver le plaisir des mots qui roulent, des harmonies qui rebondissent, des éclairs de joie déchirant des tapis de cordes. Tapis de cordes magnifiquement arrangés par Yvan Cassard, cet orchestrateur de génie qui a travaillé avec les plus grands, toujours adaptant avec amour sa science des harmonies savantes à la simplicité des chansons. Qui mieux que lui pour faire ce pont entre un orchestre symphonique et une formation de jazz et servir avec une humilité bienveillante les beaux accords de Nougaro et ses textes magnifiquement chantés désormais par une diva qui est revenue sur le plancher des vaches pour notre plus grand bonheur.
Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle et son tic-tac si doux, si doux que le temps ne pensait.
sait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle.
Voilà, Nougaro par Nathalie Dessay. Un grand merci André Manoukian. Il est 7h27, la météo est à suivre.
Pardon, 17 minutes. C'est le temps que vous consacrez en moyenne chaque année à faire vos courses.
Ah chérie, on a oublié de peser les pêches. Tu peux y aller ?
Et si le moment était venu de consacrer du temps aussi à votre épargne ? À la Caisse d'épargne, nous vous proposons le parcours épargne personnalisé, très utile pour vérifier si vos placements sont toujours en phase avec vos projets. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital.
Bonjour, alors voici le Tiroc.
J'adore les lignes.
Régulateur de vitesse adaptatif, assistance au maintien de trajectoire, le freinage automatique...
Non, c'est bon, j'y vais.
Et attention à la plante verte.
Du 21 novembre au 2 décembre chez Volkswagen, pendant les Black Flash Days, repartez immédiatement avec votre Volkswagen, dans la limite des stocks disponibles.
Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Nicolas.
Un temps agité.
Et oui, avec des averses orageuses, du vent qui balaye pratiquement tout le pays jusqu'à 100 km/h près des côtes de la Manche et Atlantique, jusqu'à 70 au centre au nord-est. Cette nuit, on a relevé des rafales à Arcachon à 132 km/h. Ces fortes rafales vont jeter un sort donc aux dernières feuilles qui s'accrochent désespérément aux arbres, excepté dans le sud où le ciel sera beaucoup plus clément ce matin, du Pays Basque aux Bouches du Rhône et cet après-midi de la Garonne jusqu'à la Côte d'Azur, sans oublier quand même la Gironde qui reste en vigilance crue. Puis ce matin, on a les pluies de l'ex-tempête qui s'échappent par l'est de la vallée du Rhône à la Corse, en donnant de la neige dès 1800 mètres ce matin sur les Alpes, des pluies orageuses sur la région PACA et la Corse, et ce matin qui retrouvera le soleil cet après-midi.
Et le jour se lève en douceur.
Et oui, avec cet air tropical, on est 5 à 9 degrés au-dessus des normales de saison. Plus bas, il fait 5 à Tarbes, 6 en Lozère, mais vous avez 10 à Brest, à Lille, il fait 11 à Paris et à Lyon, mais déjà 16 à Toulon. Puis en journée, au plus bas, il fera 9 dans le Cantal à Saint-Flour, ailleurs des valeurs presque printanières, 14 à Nantes, Paris, Strasbourg, 15 à Lyon et Bordeaux, 18 à Nîmes, Nice et Ajaccio.
Merci Marie-Pierre. Dans la prochaine demi-heure du 7-9, Thomas Legrand, Dominique Seux, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Thomas, la politique.
En politique, les grands mots, les petites réformes.
Dominique, l'économie.
Ras-le-bol de l'abus d'agribashing. Ben alors, voilà. Je mets un point d'interrogation, ben en fait non, un point d'exclamation.
Un point d'exclamation. À tout à l'heure messieurs, France Inter, 7h30. Merci de nous rejoindre. Le journal Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, haro sur le Black Friday. Le gouvernement multiplie les sorties contre cette journée de soldes frénétiques. Nouvelle attaque, cette campagne du ministère de la Transition écologique pour une consommation plus responsable afin de rallonger la durée de vie des objets. Reportage à suivre. Dans ce journal également, la crise qui n'en finit pas au Liban et des manifestations qui se durcissent depuis quelques jours. Nous serons à Beyrouth. Une audience très attendue au procès du meurtre d'Élodie Kulik avec l'écoute d'un enregistrement déterminant, 26 secondes glaçantes au cœur de l'enquête. Cette enquête également sur les femmes enceintes très peu vaccinées contre la grippe et puis le MMA, cet art martial très violent, bientôt reconnu en France. Reportage dans un club en fin de journal.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, aujourd'hui le président du groupe Les Républicains au Sénat, j'ai nommé Bruno Retailleau.
France Inter.
Et l'on commence, Sébastien, avec cette question existentielle. Faut-il interdire le Black Friday ?
Le Black Friday, ce concept venu tout droit des États-Unis, ce vendredi un mois avant Noël, synonyme de fièvre acheteuse débridée. Eh bien, plusieurs hommes et femmes politiques français en font leur cible depuis le début de la semaine, avec d'abord cet amendement des députés afin de limiter les campagnes de promotion agressives. Il sera examiné le 9 décembre prochain. Le gouvernement, lui, n'est pas en reste non plus après la mise en garde de la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne contre cette frénésie de consommation. C'est au tour maintenant de sa secrétaire d'État Brune Poirson qui lance une campagne de sensibilisation sur Internet et à la télé pour inciter les Français à consommer de manière plus durable. Sandy Dauphin.
Que faire d'un téléphone dont l'écran est cassé?
Surtout, ne pas le jeter pour en racheter un neuf. C'est le message de cette campagne baptisée « Nos objets ont plein d'avenir ».
Oui, il y a bien mieux à faire que de racheter un téléphone neuf.
La secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, veut inciter à consommer autrement.
Utiliser des objets différemment, en les louant, les réparant, en les échangeant, en achetant aussi de seconde main. Bref, changer ce rapport à la consommation. Et l'objectif, c'est de lutter contre cette double arnaque pour la planète, pour le porte-monnaie des Français, qu'est le Black Friday, un vendredi noir.
L'Agence de l'environnement, l'ADEME, a calculé les bénéfices de rallonger la durée de vie de plusieurs objets du quotidien. Pierre Galliot, chef du service consommation.
En conservant un produit, on évite la fabrication d'un nouveau produit. Or, ce nouveau produit va émettre énormément de gaz à effet de serre, va consommer beaucoup de matière. Si on prend par exemple l'exemple d'un téléviseur qui a une durée de vie moyenne de 8 ans, si on le prolonge juste d'un an, grâce par exemple à un bon entretien, on gagne l'équivalent de 50 kg de CO2. Si on étendait ça à l'ensemble des téléviseurs français, on éviterait les émissions de la ville de Lyon.
Et d'après l'ADEME, pour fabriquer une télévision neuve de 10 kg, il faut en moyenne mobiliser 3 tonnes de matière.
Sandy Dauphin a noté ses actions militantes prévues vendredi, un Black Friday organisé par des groupes écologistes comme Extinction Rébellion qui comptent dénoncer ce qu'ils appellent la grande braderie de la planète. En face, les commerçants eux, le défendent au contraire. Cette journée clé, disent-ils, pour l'économie, surtout un an après les Gilets jaunes.
Il est 7h33, des cérémonies après la mort des 13 militaires français lundi soir au Mali.
Mort dans la collision de deux hélicoptères qui poursuivaient au sol des djihadistes. Les deux boîtes noires ont été récupérées, nous dit ce matin le porte-parole de l'armée. Après les hommages rendus hier soir dans chacun de leurs régiments, une cérémonie nationale présidée par le président Macron aura lieu aux Invalides dans les prochains jours, a priori vendredi ou lundi. 13 décès, le plus lourd bilan humain depuis la guerre au Liban depuis près de 40 ans. Le Liban, justement, où les manifestations continuent de plus en plus violentes. 40 jours au total de contestations. Les Libanais qui protestent contre la corruption des partis au pouvoir, des partis qui, eux, tentent de détourner les revendications sociales des citoyens et d'attiser les conflits confessionnels dans ce pays très fracturé. Le reportage d'Aurélien Colli.
Rodéo nocturne et pulsions sectaires, résume un journal libanais, après des raids de sympathisants des deux grands partis chiites, Hamal et Hezbollah, contre plusieurs QG de la contestation. À Tyr au sud, l'armée a tiré en l'air pour reprendre le contrôle. Même scénario à Beyrouth dimanche soir, devant Nazi, 40 ans, architecte.
Ils viennent sur casse, on reconstruit, c'est de la tôle. Et nos demandes sont bien plus forts qu'une tente en tôle ou en bois ou en plastique.
Au QG de Beyrouth, les tentes saccagées ont déjà été remplacées, mais la capitale a des poussées de fièvre tous les soirs dans différents quartiers. Un climat de tension alimenté par les vieux partis confessionnels de tous bords, selon Nazi, pour reprendre la main sur une contestation qui les a dépassés et demande leur départ.
Les deux camps du pouvoir, ils sont les responsables de ce genre d'affrontement. On comprend ce jeu, on ne veut pas du sang, on ne veut pas des bastons, on ne veut pas de tout ça.
Le piège confessionnel que les contestataires libanais veulent à tout prix éviter, eux qui attendent depuis 3 semaines un gouvernement technique, apolitique, pour éviter une faillite à leur pays. Ces violences, c'est une tentative de réduire le mouvement à un affrontement sectaire, à des divisions religieuses, communautaires, alors qu'elles sont sociales, explique aussi Mohamed, mobilisé depuis le début de la contestation. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
On revient en France avec Adèle Haenel qui engage finalement le combat judiciaire. L'actrice a été auditionnée hier pendant plus de 6 heures dans le cadre de l'enquête sur des attouchements qu'elle dit avoir subis quand elle avait entre 12 et 15 ans. Et c'est donc au cours de cette audition qu'elle a décidé de porter plainte contre celui qu'elle accuse, le réalisateur Christophe Ruggia. L'actualité judiciaire encore est cette audience très attendue aujourd'hui au procès du meurtre d'Élodie Cully. Une audience consacrée à l'enregistrement de l'appel aux pompiers passés par la victime juste avant sa mort en 2002. C'est notamment sur la foi de cette bande-son que l'accusé Willy Bardon est jugé aux assises pour le viol et le meurtre de la jeune femme. 5 de ses proches disent avoir reconnu sa voix. Corinne Audouin.
Pour la première fois, cet enregistrement téléphonique va être diffusé au cours d'une audience publique. Tous ceux qui l'ont entendu savent à quel point c'est une épreuve. Didier Seban est l'avocat du père d'Élodie, Jackie Culic.
Oui, c'est une bande très difficile à écouter parce que c'est le cri d'une femme qui va mourir. Évidemment, c'est insupportable. Au départ, d'ailleurs, on n'entend que ça. Il faut plusieurs écoutes parce que à la première écoute, on est tellement sidéré qu'on n'entend pas le reste. Et puis après, on reconnaît des voix, on entend quelque chose, on entend un accent, on entend une manière de parler. Beaucoup de témoins dans cette affaire vont reconnaître Willy Pardon.
Les jurés et les parties au procès seront équipés de casques pour réécouter ces voix dans des versions successives, nettoyées, améliorées. Mais vu la mauvaise qualité de la bande, difficile d'avoir une certitude, explique l'avocat de Willy Pardon, maître Stéphane Dacou.
On peut d'abord attendre de la part des experts qui vont déposer des éléments techniques et objectifs qui viendront nous dire si oui ou non il est possible, compte tenu de la qualité de la bande et de sa durée, d'identifier un individu. Si les experts viennent nous dire que c'est pas possible d'eux, ça posera quand même une vraie difficulté pour l'accusation.
En garde à vue, Willy Pardon avait dit que la voix sur la bande ressemblait à la sienne, tout en niant absolument avoir participé au crime. Amiens, Corinne Audouin, France Inter.
Du nouveau sur le scandale du meurtre de Daphné Caruana, cette journaliste tuée dans un attentat sur l'île de Malte il y a 2 ans. 3 hauts responsables maltais ont quitté leurs fonctions hier, inquiétés par les derniers développements de l'enquête. Le chef de cabinet du Premier ministre et le ministre du Tourisme ont démissionné. Quant au ministre de l'Économie, Chris Cardona, lui, il a pour sa part décidé de se mettre en réserve pendant toute la durée des investigations en cours.
Il est 7h38, les femmes enceintes, Sébastien, seraient insuffisamment vaccinées contre la grippe.
C'est ce que constate en effet une étude à paraître de l'INSERM, l'Institut de Recherche Médicale, qui chiffre à 7,4% seulement le nombre de femmes enceintes vaccinées. Un vaccin contre la grippe pourtant recommandé, il permet d'éviter des complications pulmonaires pour la mère et des risques vitaux pour le bébé. 2 explications à ce mauvais taux de couverture, Véronique Julia, la défiance face au vaccin et peu de prescriptions médicales.
L'étude a porté sur près de 12 000 femmes enceintes ayant accouché au mois de mars. Le mois de mars a son importance car ça veut dire qu'elles ont été enceintes pendant la période automne-hiver qui couvre la vaccination et l'épidémie. Premier enseignement, la vaccination n'a été proposée qu'à 25% de ces femmes et ce sont les généralistes plus que les obstétriciens ou les sages-femmes qui la proposent. Béatrice Blondel est chercheuse à l'INSERM, auteur de l'étude.
Malheureusement, les généralistes sont rarement la personne de référence pour le suivi prénatal. Ça concerne 10% des femmes. Donc, c'est beaucoup de gynécologues obstétriciens qu'il faudrait convaincre.
Deuxième enseignement. Quand on leur propose la vaccination, 70% des femmes enceintes la refusent. Une défiance vis-à-vis du vaccin, mais aussi plus globalement vis-à-vis des médicaments.
On leur a dit que tout ce qui est produit pharmaceutique est dangereux, peut avoir des effets sur leur grossesse. Et donc, je pense qu'elles ont aussi cette culture-là de précaution. Donc, il y a un travail de sensibilisation des femmes.
Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où le vaccin est également recommandé pour les femmes enceintes, le taux de couverture vaccinale est supérieur à 40%. Le vaccin contre la grippe n'est pas systématiquement efficace. Il évite malgré tout 50% des cas de grippe. Il faut savoir aussi que le vaccin de la mère protège le bébé pendant les premiers mois de sa vie.
Véronique Julia, ils montent à Paris pour faire entendre leur colère. Des centaines d'agriculteurs manifestent depuis ce matin au tracteurs, 1000 tracteurs pour dénoncer pêle-mêle l'agribashing, la pression de la grande distribution sur les prix ou encore les accords commerciaux avec le Canada. Résultat, plusieurs opérations de blocage prévues dans la capitale mais aussi à Lyon. On y revient avec Dominique Seux juste après ce journal.
Il est 7h40, on termine avec une double clé de bras.
Une clé à la mode MMA, cet art martial jusqu'ici interdit en France et qui va bientôt être reconnu afin d'éviter les combats clandestins. Le MMA, c'est un sport de combat importé là aussi des États-Unis comme le Black Friday, un mélange de boxe et de jujitsu pratiqué dans une cage où presque tous les coups sont permis. En attendant une reconnaissance officielle, les fans de MMA n'ont pas attendu pour fonder leur club. Exemple à Bordeaux, dans l'un des plus anciens de France, Guillaume Batin.
Ils sont 25 élèves ce soir à se retrouver dans une zone industrielle des quartiers nord de Bordeaux. Les murs du dojo sont recouverts de trophées, ceux d'Emmanuel Fernandez, champion du monde de MMA et fondateur de l'Académie Pythagore dans les années 2000.
Ok, on s'assoit.
La plupart des élèves ont de 20 à 40 ans, plutôt musclés, mais certains sont plus jeunes et plus frêles.
Fabio, je dois faire 1m70, 52 kg, 16 ans. Moi, je suis vraiment petit et maigre et pourtant, ce qui compte, c'est la technique, plus que la force brute.
Cédric a 18 ans, plus grand, plus musclé, dégoûté du foot, il s'est tourné vers le MMA.
J'ai voulu commencer le MMA parce que j'en avais vu à la télé, mais je trouvais ça un peu violent. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer. J'ai trouvé que c'était pas du tout que de la violence. Maintenant, mon rêve, c'est de rentrer dans la cage.
La cage, une arène où tous les coups ne sont plus permis comme avant. Emmanuel Fernandez.
On a fait une cage parce que dans le MMA, il y a la partie lutte. Si on fait ça, par exemple, sur un ring, les gens passent au-dessus des cordes. Et il y a déjà eu de nombreux blessés Encore une fois, c'est pour protéger les combattants.
Allez, on fait des rounds de 3 minutes. Allez.
Mi-décembre, le MMA rejoindra une fédération sportive déjà existante, probablement celle de la lutte, et les premiers combats officiels seront organisés en début d'année.
Voilà, la reconnaissance du MMA en France, un reportage en longueur avec plus de cris, plus de crochets du droit, c'est pour vous Nicolas, c'est à retrouver sur franceinter.fr.
Merci Sébastien Le Génie, la politique à suivre sur Inter.
Tout savoir sur l'aide aux startups avec le Crédit Agricole. Les startups sont de plus en plus nombreuses en France, mais elles ont parfois du mal à développer leur activité. Pour les aider, des structures existent comme les villages du Crédit Agricole. Julie, vous êtes notre experte dédiée aux entrepreneurs. Parlez-nous de cette initiative.
Alors, vous le disiez, les premières années d'une start-up sont souvent difficiles, ne serait-ce que pour se bâtir un réseau.
Bien sûr.
Eh bien, les villages du Crédit Agricole permettent aux entrepreneurs de rencontrer des PME, des ETI ou des grands groupes pour échanger des conseils et des compétences.
D'accord, si je comprends bien, le principe c'est de coopérer pour innover.
C'est ça, puisque ce réseau basé sur l'échange est entièrement consacré au développement et à l'accompagnement de projets innovants.
Et où se trouvent ces villages ?
Un peu partout en France. À noter qu'en 5 ans, 31 villages ont vu le jour et 10 autres sont en projet.
Ah oui.
Et ce qui est bien, c'est que ça permet de soutenir l'innovation en région.
Et donc ça profite à l'économie locale.
Exactement, et grâce à ce réseau de villages du Crédit Agricole, tous les acteurs économiques y trouvent leur compte.
Très bien, et pour en savoir plus ?
Alors rendez-vous sur levillagebyca.com.
Merci d'écouter France Inter, il est 7h43.
France Inter, le 7-9.
L'édito politique Thomas Legrand, au grand problème, les grands mots, M-O-T-S.
Oui, tendance bien de chez nous, on masque une relative impuissance, une faible volonté ou un manque de moyens, en l'occurrence un manque de moyens, par des mots trop grands. Le mot Grenelle pour qualifier les réformes contre les violences conjugales est largement surdimensionné, comme les plans Marshall, les révolutions à tout propos pour signifier qu'on a bien pris la mesure d'un sujet et agi en conséquence. Un Grenelle fait référence aux accords du même nom en mai 68, puissante mobilisation de moyens et changements structurels. Le Grenelle en 68, rappelons-le, c'est plus 35% pour le SMIG et 10% pour tous les autres salaires. C'est la création des sections syndicales d'entreprise, un bouleversement négocié. Là, s'agissant des mesures contre le féminicide, il s'agit de l'accélération d'un processus en cours, de la confirmation de programmes engagés, d'ajustement de normes, de trajectoires financières déjà prévues. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas un Grenelle. À la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, c'est un exemple, sur les 18 postes d'assistante sociale, seuls 10 sont pourvus et ne le seront pas plus après les annonces de cette semaine. Un Grenelle, digne de ce nom historique, aurait réglé cette situation et bien d'autres sur le terrain. Au grand mot M-A-U-X, en réalité, l'inflation des superlatifs. Tous les « jamais autant n'a été fait », tous les « c'est la première fois qu'on va aussi loin » veulent combler un fossé de crédibilité à mesure qu'il se creuse. Du Sarkozy pur jus s'insinue dans le vocabulaire de la réforme macronienne. Et d'ailleurs, l'actualité fait remonter un exemple de ce travers sarkozien dénoncé ces derniers jours par notre invité de ce matin, Bruno Retailleau.
Comment ça ?
Eh bien, quand il réclame un service minimum dans les transports les jours de grève, Bruno Retailleau souligne que celui-ci n'existe pas, alors que Nicolas Sarkozy avait prétendu l'avoir établi. Là encore, service minimum, concept fort, mot gonflé, le texte voté en août 2007 s'intitulait « Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports ». Il s'agissait, pour la majorité d'alors, de cocher la case « service minimum » dans la liste des promesses tenues, une réglementation qui, je cite, rendrait impossible les prises d'otages d'usagers par les privilégiés qui défendent leurs avantages acquis. Il fallait un affichage autoritaire, le discours d'accompagnement proclamé donc service minimum. On parlait même de réquisition, d'astreinte. En réalité, c'était juste un dispositif bienvenu de prévention des conflits, de meilleure information sur les perturbations, les jours de grève, une loi d'organisation du dialogue social. Nicolas Sarkozy, dans ses campagnes de 2012 et 2016, continuait crânement d'affirmer qu'il avait imposé le service minimum dans les transports. Dans le jeu des postures en miroir, la gauche s'était dressée contre cette horrible atteinte au droit social qu'elle s'empressa, une fois revenue au pouvoir, bien sûr, de garder, parce qu'en réalité cette loi est inoffensive, même pratique. Grandiseux, petit faiseux, nous n'arrivons décidément pas, citoyens comme gouvernants, à considérer que, le plus souvent, la meilleure des réformes en démocratie, les meilleures des réformes, ne sont pas les révolutions proclamées, mais les évolutions patientes et négociées.
Thomas Legrand.
L'édito écho avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une banque du groupe Crédit du Nord.
Dominique Seux, à Berlin en Allemagne et à Paris, des agriculteurs manifestent en colère.
Oui, à Berlin, des milliers de tracteurs ont convergé hier vers la porte de Brandebourg pour exprimer le ras-le-bol des agriculteurs face aux réglementations décidées d'en haut par des citadins qui ne connaissent pas, selon eux, leur métier, notamment l'interdiction du glyphosate fin 2023 contre janvier 2021 en France. En France, justement, 1000 tracteurs s'approchent de Paris actuellement pour exprimer là aussi leur ras-le-bol de ce qu'ils ressentent comme de l'agribashing. Il se passe quelque chose d'inouï. Les agriculteurs ont longtemps été les chouchous des Français. Ils se sentent aujourd'hui détestés et rejetés. On les admirait, on les plaignait pour leurs conditions de travail et leurs revenus. Aujourd'hui, on les critique pour les pesticides, l'élevage industriel et la mise en cause de la vie animale. Eh bien, ce procès est en partie injuste. Il ne mérite pas cette opprobre permanente et encore moins les violences ou le mépris dont ils sont victimes. Quand un agriculteur du Cantal est condamné à 8000 euros d'amende parce que ses voisins trouvent que son élevage sent mauvais, on comprend que le monde agricole voit rouge. Pendant 50 ans, la société française lui a demandé au monde agricole de baisser ses prix, d'améliorer la qualité de ses produits et pour cela, il a diminué ses coûts grâce à une agriculture intensive, mécanisée et subventionnée. Le budget alimentaire de tous les ménages français a plongé, permettant entre autres de financer d'autres besoins, le logement et surtout les loisirs. On découvre certes que cela épuise les sols, dégrade la biodiversité, que les pesticides posent quelques problèmes sanitaires. Et il faut changer, mais la responsabilité ne peut décemment porter sans une hypocrisie totale sur les seules épaules des agriculteurs.
Car c'est trop facile ?
Ben oui, absolument. Des conversions se sont faites, et plutôt vite d'ailleurs. L'agriculture biologique occupe déjà 10% des terres cultivées. Les professionnels se battent pour remonter la pente économiquement, avec un prix du lait et du porc qui progresse un peu, mais qui progresse par exemple. La suppression du glyphosate en 3 ans d'ici 2021 est un chantier absolument considérable. La profession n'a pas besoin en plus d'une déconsidération générale. Tout cela me rappelle au fond, Nicolas, un souvenir. Il y a 20 ans, quelques membres très parisiens et bien vus de l'élite économique, totalement irresponsable, rêvaient d'une France sans usine. Eh bien, on y est presque arrivé. Il n'y a presque plus d'ouvriers. La désindustrialisation nous a coûté extrêmement cher. Attention à ne pas rêver, préparer une France sans agriculteurs. Oui, ras-le-bol de l'abus d'agribashing.
Dominique Seux.
France Inter. Le 7-9.
Il est 7h49. Léa Salamé, votre invitée ce matin, est président du groupe Les Républicains au Sénat.
Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. L'émotion est forte après la perte de 13 de nos militaires français au Mali. C'est le plus lourd bilan humain pour l'armée française depuis le Drakkar à Beyrouth il y a près de 40 ans. Quel sentiment vous traverse ce matin ?
Un sentiment, bien sûr, d'émotion. Hommage à nos grands morts, comme avait dit un jour Clémenceau à la tribune de l'Assemblée nationale. C'était le 11 novembre 1918, donc hommage à ces héros. Bien sûr, mes pensées à leur famille. Vous savez qu'on a malheureusement un papa qui est sénateur et qui a perdu un de ses fils.
Jean-Marie Bockel.
Absolument. Mais aujourd'hui, je pense que la France fait le travail. Elle fait le travail pour l'Europe là-bas. Mais beaucoup de choses doivent changer.
Qu'est-ce qui doit changer ?
Il faut rester.
Justement, c'est ce que j'allais vous demander, ce terrible drame repose la question de notre présence au Sahel. Des soldats meurent, la situation se dégrade sur place. Devons-nous partir ou rester ? Et si on reste, on reste pour combien de temps ?
Plus de 40 soldats sont morts, bien sûr. Il faut rester, il ne faut pas imiter les Américains lorsqu'ils sont partis, Syrie, l'Afghanistan et même d'ailleurs l'Irak. Ce serait la double peine, on aurait payé le prix fort, le prix du sang et on n'aurait pas obtenu le résultat. Mais on ne peut pas rester dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Ça n'est pas la question. De l'efficacité de nos forces, elles sont efficaces. Nous ne sommes pas seuls. Il y a l'ONU, la MINUSMA, il y a le G5 Sahel et puis il y a Barkhane. Voilà ce qu'il faut proposer. D'abord, pour ce qui concerne la MINUSMA, ils sont enfermés dans leur caserne, ils passent du temps à se protéger eux-mêmes. Ça ne va pas. On redéfinit leur position et surtout leur feuille de route. Deuxième chose, pour ce qui concerne Barkhane, il faut un commandement français qui intègre les forces spéciales. Définitivement. On lutte aussi là-bas pour l'Europe.
Ça veut dire quoi précisément ça ?
Ça veut dire qu'il faut Barkhane, si j'ose dire, d'autres pays. L'Allemagne, par exemple, nous aide. Elle nous aide sur de la logistique. Très bien. Mais beaucoup de pays européens, certains pays européens, pardon, ont des forces spéciales qui sont très aguerries. Il faut les mettre, bien sûr, à disposition, sous un même commandement. Ce commandement est évidemment français dans le cadre de Barkhane.
Il me semble qu'on va vers ça, Florence Parly.
Oui, je l'ai entendu. J'espère que le chef d'état-major des armées, tout à l'heure, pourra vous le confirmer. Troisième élément. Le Mali, le G5 Sahel, dont fait partie le Mali. Il y a un vrai problème, c'est que le président Mbeka fait pas le travail. Il n'est pas associé. Au contraire, il ne remplit pas le minimum des missions régaliennes de sécurité ou social, l'éducation, de la santé.
Alors
il ne veut pas appliquer les accords d'Alger de 2015. On est très exigeant avec lui. On lui fait comprendre que ça va bien. on est là et nous on paie le prix du sang, alors il doit impérativement coopérer.
Mais vous dites ce matin, contrairement à certaines voix qu'on entend, notamment la France Insoumise, qui disent on ne comprend plus cette guerre, on ne comprend plus à quoi on sert en Afrique, au Sahel.
Moi je vais vous dire à quoi on sert. Demain on part, c'est toute l'Afrique, un territoire presque grand comme l'Europe, qui peut tomber dans un gigantesque califat africain. Et là-bas, une fois que le califat aura été institué, ce sera des morts en France. Le terrorisme, on lutte sur le front extérieur et on lutte sur le front intérieur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours indiqué que la mort de nos soldats nous obligeait, y compris sur le front intérieur, à être courageux, à ne rien céder.
On y reviendra longuement avec le chef d'état-major des armées, invité exceptionnel de 8h20, Bruno Retailleau. On en vient à la grève du 5 décembre qui s'annonce massive à la SNCF, à la RATP. Les syndicats appellent à une grève illimitée. Vous voulez créer d'ici le 5 décembre un droit au transport public garanti. C'est quoi? Ça veut dire que vous voulez réquisitionner le personnel gréviste?
C'est simplement qu'il y a le droit de grève, il est garanti. Il y a un autre principe constitutionnel qui doit être garanti, le principe de la continuité des services publics. Moi, je veux simplement, au moment où beaucoup de Français, les plus fragiles, ceux qui n'ont pas de solution alternative, qui dépendent des transports publics, qui sont importants pour notre environnement, je pense que le moment est venu de se dire, au moins mettons-nous autour d'une table, et il y a un minimum garanti, c'est-à-dire je propose un tiers aux heures de pointe. C'est parfaitement...
Ça veut dire quoi, un tiers aux heures de pointe?
Un tiers du trafic aux heures de pointe, l'heure de pointe étant définie comme la plage horaire où il y a le plus de dessertes dans une journée, c'est donc le matin et le soir. On peut... Le droit de grève,
ça s'appelle
il est
casser
important.
Le droit de grève.
Non, le droit de grève, il est bien sûr vous fondamental. Assumez. Il est fondamental, mais ça n'est pas un droit au blocage, à la prise d'otage de la France. Je crois que il y a un point d'équilibre et je le cherche. Ce point d'équilibre, peut-être qu'on me dira, c'est pas 33%, c'est pas un tiers, c'est un quart. Mais ce point d'équilibre pour la conciliation des deux droits constitutionnels, que sont le droit de grève, que sont le principe de continuité des services publics, c'est absolument essentiel.
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, vous a répondu vertement que c'était vraiment de la communication que de déposer à 10 jours d'une grève une proposition de loi. Elle raille votre sens du timing politique.
Mais j'ai pas compté nos propositions de loi. Il y en a 4 ou 5 qu'on a déposées depuis 2 ans. On les dépose régulièrement. Celle-ci est très affinée parce que justement, on l'a travaillée depuis longtemps. C'est exactement lorsque j'avais fait mon texte sur les Black Blocs. On m'avait dit, mais c'est quelques semaines. Non, moi je l'avais proposé au moment des zadistes de Nantes et je l'avais déposé juste après le 1er mai. 2018, quand les Black Blocs avaient pourri justement la manifestation du travail des grands syndicats qui n'avaient pas pu manifester.
Sur le fond maintenant, Bruno Retailleau, le gouvernement répète ces derniers jours qu'ils iront jusqu'au bout, que les régimes spéciaux c'est fini, que c'est un statut d'une autre époque, que les revendications des cheminots sont corporatistes. Est-ce que vous approuvez tout cela?
Non mais, il y a deux choses. D'abord, on ne peut pas dire, on ne peut pas gonfler les muscles en prenant et en désignant des boucs émissaires, notamment sur les régimes spéciaux. Moi, je suis pour la fin des régimes spéciaux. Mais pour autant, Emmanuel Macron ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Il ne suffit pas, pour qu'une réforme soit bonne, de désigner des boucs émissaires. C'est ce qu'il fait systématiquement. Pour les retraités, dans le cas de la désindexation, c'était des nantis. Ensuite, ça a été les élus, souvenez-vous. Balance ton maire. Les Gaulois réfractaires, etc. Il y a toujours cette idée du bouc émissaire. Maintenant, cette réforme, elle ne marche pas. Elle est anxiogène pour deux raisons. D'abord, elle est brumeuse. Le calendrier, les cacophonies, on ne sait pas où on va, mais surtout elle est profondément injuste. Chaque jour qui passe, la liste justement des perdants s'allonge. Les mères de famille, les calculs, on les a maintenant. Une mère de famille avec 2 enfants qui gagne, tenez-vous bien, 1 250 € par mois, elle va perdre par an 1 600 €.
Alors c'est des simulations
de 3 enfants.
Oui.
Pareil, le même salaire par mois, 1 200 € et la perte, c'est pratiquement plus d'un salaire par an.
Jean-Paul Delevoye a prévu des bonus de 5% accordés aux deux parents dès le premier enfant
mais
pour pallier ça.
Mais c'est faux. Mais enfin, c'est vrai, ponctuellement. Mais je vous prends le cas d'une famille de 3 enfants. De 3 enfants, 5%, 3 enfants multipliés par 3, ça fait 15. Le système actuel, c'est pour 3 enfants, 10% pour chaque parent, 20%. Deuxième chose, le système actuel, parce que les femmes sont désavantagées, elles touchent moins, 40% de moins de retraite parce que les carrières professionnelles sont souvent interrompues, heurté. Et aujourd'hui, on a une forme de prime au trimestre. Par enfant, vous avez 8 trimestres. Par enfant, 8 trimestres. C'est considérable.
Et d'où ce bonus pour compenser?
Et là, il n'y aura rien. Et là, il n'y aura rien. Pareil pour les veuves, les pensions de reversion. Aujourd'hui, si vous perdez votre mari à 55 ans, ouais, vous touchez la pension de reversion.
Vous êtes
demain,
sûr
il faudra 62 ans
vous êtes
ou 64
vous,
ans.
Vous la connaissez, en fait, la réforme?
Mais personne
parce
ne
que
peut
vous,
la connaître.
Vous parlez
on
de...
l'approche. Le Sénat a fait un travail très minutieux. On continue à le faire. Et on n'est pas pour rien, justement, dans le calcul pour les mères de famille de 1, 2 et 3 enfants. Et on voit bien que cette... elle ne vole pas, comme dit Emmanuel Macron. Elle ne marche pas. Parce que le système est complexe. Et je pense qu'aujourd'hui, le machiniste ne comprend pas sa machine. Voilà. La
machiniste,
réalité, elle est là.
Dites.
Et si les Français, et si les Français vont projeter leur mécontentement sur, par exemple, la manifestation, les grèves du 5 décembre, ça n'est pas parce qu'ils veulent des régimes spéciaux. C'est tout simplement parce que ils se solidarisent. C'est comme une grève par procuration. Et c'est grave parce que le système français est un des meilleurs. Le taux
mais
de
c'est
pauvreté,
ce que j'allais vous dire, c'est ce que dit, pardon, c'est ce que dit Richard Ferrand notamment. Il dit ne soyons pas pleurnichards. On a le meilleur système de santé au monde. En tout cas, on est envié. Allez, est-ce que vous avez l'impression qu'on est trop négatif, comme dit Emmanuel Macron, qu'on est des pleurnichards, comme dit Richard Ferrand?
Non, mais ça c'est la technique du bouc émissaire. C'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des Français. Non, il est au pouvoir maintenant depuis 2 ans et demi. À lui de prendre ses responsabilités. La prochaine retraite, si jamais je pense qu'elle ne se fera pas parce qu'elle fabriquera des nouveaux pauvres. Le système actuel de notre propre retraite, c'est quand même intéressant pour les plus de 65 ans. On a 2,5 fois moins de pauvres en moyenne que les grands pays de l'OCDE. Mais
vous
le
êtes,
problème, c'est que...
Vous êtes pour la grève du 5 décembre?
Non, moi, je... Non,
bah, j'ai du mal à... Vous êtes à deux doigts d'être gréviste, j'ai l'impression.
Je ne la soutiens pas. Je dis que cette... Non, c'est mauvais. La réforme est mauvaise parce qu'elle ne pense pas à la démographie. Or, un régime de retraite par répartition, c'est l'équilibre entre les actifs et les inactifs. Si vous cassez la politique familiale, vous cassez le régime de retraite par répartition.
Bruno
Il faut
Retailleau.
Penser l'avenir, c'est-à-dire penser une politique de la démographie.
Merci d'avoir été avec nous et belle journée.
Merci. Merci Léa. Et en raison d'appel à la grève émanant de plusieurs organisations syndicales représentatives de Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. Rendez-vous dans 2 minutes pour le journal de 8h.
Pardon, 17 minutes. C'est le temps que vous consacrez en moyenne chaque année à faire vos courses.
Ah chérie, on a oublié de peser les pêches. Tu peux y aller ?
Et si le moment était venu de consacrer du temps aussi à votre épargne ? À la Caisse d'épargne, nous vous proposons le parcours épargne personnalisé. Très utile pour vérifier si vos placements sont toujours en phase avec vos projets. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital.
To be home again. I had a year that nearly sent me off the edge. I feel like a 5, I can't pretend. But if I get my shit together this year, maybe I'll be a 10. Help myself a little better, cause it's getting tiring. And I can't wait for the summer. No, I'm gonna need a moment. I did it again, I did it again.
Merci de nous rejoindre sur France Inter. Vous l'entendez, il est tout juste 8 heures. Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ils roulent sur Paris. Les agriculteurs ont sorti leur tracteur ce matin pour déverser leur colère dans la capitale. Le trafic est déjà très perturbé, c'était le but de la manœuvre. Nous serons dans l'un des cortèges dans le sud de Paris dans un instant. Au sommaire également, le recueillement après la mort de 13 soldats français au Mali. Cérémonie à Pau hier soir et déjà des questions sur l'engagement de la France au Sahel. Vous en parlerez dans 20 minutes avec votre notre invité.
Oui, un invité exceptionnel ce matin, Florence. Il s'agit du chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, à notre micro tout à l'heure. Vous pouvez nous appeler, le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Je ne pourrai pas, suite à ce mouvement de grève que traverse Radio France, diffuser en direct vos questions. Je les lirai donc, passer autrement par les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
Dans ce journal aussi, Michel Fourniret, dans le bureau de la juge chargée de l'affaire Estelle Mouzin, avec peut-être une mise en examen, l'épouvantable centre des coordonnées à la science à la fac de médecine de Paris, l'ENA qui se veut plus en prise avec la réalité, la technologie au service de l'environnement et des citoyens, la ville d'Angers va tout essayer, et puis un Goncourt au cinéma, Chanson douce et Karine Viard dans le rôle de la nounou.
France Inter.
Ils ne charrient pas de bottes de paille, mais le fardeau de leur rage. Les agriculteurs et leurs 1000 tracteurs aux portes de Paris. Ce matin, rendez-vous au péage des autoroutes qui mènent à la capitale vers 6h, puis départ en convoi direction l'avenue Foch, en passant par le périphérique. Non seulement leurs revenus ne s'améliorent pas, mais les paysans ont l'impression d'être les boucs émissaires du moment, d'où ce blocage de Paris. Manuel Ruffez, vous suivez un convoi parti des Ulysses tout à l'heure.
Oui, on est parti des Ulysses à 6h30 du matin pour rejoindre l'autoroute A10 où ce premier convoi d'une dizaine de tracteurs stationne là en ce moment même sur le bord de la voie d'accès à l'autoroute en attente d'environ 25 autres tracteurs qui eux arrivent d'un rendez-vous plus au sud au péage de Saint-Arnoult. Tous ensemble donc vers Paris pour faire passer ce premier message. On en a marre d'être mal aimé. Christophe Le Robourg est agriculteur dans l'Essonne.
On a l'impression que les gens nous regardent avec beaucoup de suspicion, voire même pour certains de la haine, parce qu'ils n'arrivent plus du tout à comprendre notre métier. On arrive quand même aujourd'hui, lorsque je travaille avec mon tracteur et qu'on me lance des cailloux quand je passe le long des maisons, on a quand même l'impression qu'on est mal aimé, quoi. Des cailloux, des canettes de bière, se faire injurier, des plaintes en mairie, des plaintes en gendarmerie, c'est ça toute l'année.
Il dénonce aussi ses agriculteurs, la loi alimentation qui ne fonctionne pas, les accords de libre-échange, concurrence déloyale, disent-ils. Et puis, en France, trop de normes, de réglementation. Laura de Winter est jeune agricultrice installée aussi dans l'Essonne.
On essaie de faire beaucoup de choses techniquement pour avoir une agriculture plus durable. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure, on nous met toujours des bâtons dans les roues. Et c'est compliqué et ça tient pas en compte tous les efforts que nous on fait. Donc justement, on a un des messages, c'est Macron répond nous. C'est une journée où on peut se faire entendre, donc on espère qu'on va nous entendre sur ça.
Et il faut nous écouter, disent-ils. Les jeunes ne veulent plus s'installer, c'est toute une profession qui est menacée.
Manuel Ruffez sur le bord de l'A10 avec François Rivalan. Les agriculteurs ont reçu hier le soutien de leur ministre à l'Assemblée. Didier Guillaume déplore une cinquantaine d'intrusions dans des fermes depuis le début de l'année et 3 incendies d'exploitation laitière dans la Drôme le week-end dernier. Oubliez la clause du grand-père, plus à l'ordre du jour dans le dossier des retraites. Édouard Philippe parle désormais de négociations secteur par secteur pour ce dispositif qui repousserait la réforme à l'arrivée des nouveaux entrants sur le marché du travail. Il l'a dit aux parlementaires de la majorité hier soir.
Il est 8h04, Florence, un hommage national aux Invalides dans les jours qui viennent.
Emmanuel Macron célébrera la mémoire des 13 militaires morts dans la collision de leur hélicoptère au Mali avant-hier en pourchassant des djihadistes. Mais dès hier, la ville de Pau a organisé une cérémonie pour les 7 membres du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Plusieurs centaines de Palois y ont assisté autour des familles endeuillées. Dans l'assistance, cette épouse, fille et sœur de militaires, elle parle de douleur et de sacrifice au micro de Faustine Kelmel.
Je suis là pour aider les gens, pour les soutenir, pour montrer qu'on est solidaire et qu'on comprend en fait leur sacrifice. Et je me souviendrai toujours d'un général me dire... Quand il meurt comme ça en OPEX ou en mission, c'est la plus belle mort qu'un militaire puisse avoir. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, parce que j'étais jeune quand il m'avait dit ça. Et en même temps, ils sont morts pour ce qu'ils étaient destinés, en fait. C'est un gros trouble et ça va être une grande souffrance, je pense, et que la cicatrisation va être très difficile et très très longue. On a toujours ce sentiment un peu d'injustice, se dire pourquoi ça nous arrive à moi et pas à d'autres. Mais on est fiers d'eux, on comprend leurs valeurs, la loyauté, la patrie, Et bon, parfois c'est difficile à comprendre.
Difficile à comprendre comme l'opération Barkhane qui montre ses limites selon certains. La France engagée au Sahel depuis 6 ans sans avoir enrayé la présence djihadiste entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Si l'heure était encore au deuil hier à l'Assemblée, des voix se font entendre, Maxence Lambrecq, pour demander à sortir du piège sahélien.
Jean-Luc Mélenchon est le premier à oser ouvrir ce débat.
Il est temps de ne pas aller plus loin dans une implication qui est sans perspective. La présence française militaire va de plus en plus être prise dans une sorte de chaos dont personne ne sait comment nous ressortirions. Rappelons-nous que d'autres qui se croyaient mieux inspirés que nous en Afghanistan n'en sont pas toujours sortis.
Pas de question polémique avant l'hommage national, lui répond le communiste Sébastien Jumel.
Dans l'heure d'aujourd'hui, c'est le recueillement. Le deuil de la nation.
Chaque chose en son temps, admet le député du Rassemblement National, Sébastien Chenu, mais cette situation interroge.
Il faudra devant le Parlement se poser effectivement la question de l'enlisement, de la présence de nos partenaires européens, la question de la mobilisation des forces armées locales et de leur formation. Oui, le temps viendra de se poser ces questions-là, mais pas aujourd'hui.
Dans l'hémicycle, le Premier ministre a balayé toutes ces questions. Cet accident ne changera pas la stratégie française.
La seule dimension militaire ne permet pas d'obtenir la victoire définitive. Mais elle est indispensable, car sans une présence militaire, nous ne pouvons pas garantir le travail, par ailleurs indispensable, de stabilisation politique et de développement économique.
Position saluée par les socialistes et par les députés de droite qui jugent ensemble ce combat indispensable.
Et sur place au Mali, l'armée vient de récupérer les boîtes noires des 2 hélicoptères qui volaient à basse altitude et dans le noir total ce lundi soir. Leur analyse permettra sans doute de comprendre précisément ce qui s'est passé. À l'étranger, ce mercredi est une journée de deuil national en Albanie au lendemain d'un puissant séisme qui a fait au moins 20 morts. Les sauveteurs recherchent toujours des survivants dans les décombres des immeubles et des maisons effondrées de la côte adriatique. En Israël, des milliers de partisans de Benjamin Netanyahou se sont rassemblés pour soutenir leur premier ministre hier soir, inculpé la semaine dernière pour corruption et abus de confiance entre autres. Et puis à Londres, le grand rabbin du Royaume-Uni s'en prend à Jeremy Corbyn. Il accuse le leader travailliste d'avoir laissé s'enraciner l'antisémitisme dans son parti. Jeremy Corbyn, qui avait reconnu un vrai problème au Labour, a récusé l'accusation en pleine campagne électorale.
Il est 8h08, la suite du journal sur Inter. Florence Paracuelos.
Et ce qui va suivre, et là, c'était épouvantable. On parle d'un charnier, ou c'est tout comme, au cœur de Paris, à la fac de médecine René Descartes, où les corps destinés à la science ont été conservés pendant des années dans des conditions indignes, selon une enquête de l'Express. Chambre froide qui ne marche pas, rongeurs se nourrissant des cadavres, corps vendus à des entreprises privées, et l'on passera sur les autres détails. Cette situation n'a évidemment pas échappé à Brigitte Mauroy, médecin anatomiste, professeure des universités. Elle a dirigé le Centre des corps de Paris entre 2013 et 2016. Elle a démissionné à cause de ces dysfonctionnements. Tout est vrai, dit-elle, mais Paris serait un cas isolé.
J'ai constaté une vétusté des locaux, des chambres froides qui n'étaient pas des chambres froides, une absence de traçabilité possible des corps parce que les moyens mis à disposition ne le permettaient pas. Et donc, ça ne fonctionnait pas du tout. Et les corps, au final, n'étaient pas bien conservés. Mais ça se passe bien partout en France. Sauf apparemment entre 2013 et 2016 à Paris. C'est ça le problème. Il ne faudrait pas que le grand public s'imagine que partout en France, les donations de corps ne soient pas considérées avec les valeurs éthiques, morales, qui sont nécessaires. On a le plus grand respect, évidemment, pour les gens qui donnent leur corps à la science. Et mon inquiétude est que le Français s'imagine que ça se passe comme ça partout en France. C'est pas du tout le cas.
Voilà, alors des travaux sont prévus prochainement au Centre des corps de Paris après ces révélations. En tout cas, l'Union française pour une médecine libre, c'est un syndicat, va porter plainte. Michel Fourniret va-t-il avouer avoir enlevé Estelle Mouzin en janvier 2003 à Guermantes? Audition cruciale aujourd'hui dans le cabinet de la juge d'instruction parisienne qui a repris l'enquête sur la disparition de la petite fille. Jeudi dernier, l'ex-épouse du tueur en série, Monique Olivier, a infirmé son alibi pour le soir de la disparition. La juge a donc convoqué Michel Fourniret, déjà condamné à perpétuité pour 8 meurtres, en vue d'une probable mise en examen dans cette affaire. Audition réclamée depuis des années par Corinne Herman, l'avocate du père d'Estelle Mouzin.
On attend que Madame le juge d'instruction parvienne à obtenir des explications de Michel Fourniret. Pourquoi il s'est forgé cet alibi? Il lui arrivait d'agir sans avoir d'alibi, donc pourquoi ce jour-là spécifiquement? Et puis qu'il nous explique ce qui s'est passé et on l'espère qu'il nous dise où est Estelle. Moi j'y crois depuis le début. Il me semblait que c'était une piste qu'il fallait absolument exploiter, qui n'avait pas été menée à son bout. Nous, on n'a jamais cessé de travailler sur Michel Fourniret, de lire toutes ses déclarations dans toutes les affaires. Il va écrire cette lettre de 2007 où il s'auto-accuse des dossiers Parrish, Domès et Estelle Mouzin et demande à être jugé pour ces trois cas-là. Alors évidemment, tous ceux qui se prétendent experts de Michel Fourniret pensent qu'il joue. Nous n'avons jamais pensé qu'il jouait parce que nous considérions que c'était une forme d'aveu, qu'il fallait aller vérifier cette lettre. Évidemment que ce sont des manipulateurs, mais perdre du temps à dire c'est un manipulateur, il joue avec la famille, on vérifie. Et il s'avère que quand on vérifie, on a des résultats.
Voilà, l'avocat de Monsieur Mouzin au micro de Corinne Audouin. Marc Véra contre le guide Michelin, une première dans le milieu gastronomique au tribunal de Nanterre aujourd'hui. Le chef a perdu sa troisième étoile dans l'édition 2019 du Michelin. Il réclame la vérité sur ce déclassement et exige de ne plus être référencé dans les prochaines éditions du guide. Ça semble tomber sous le sens. Et pourtant, il aura fallu attendre 2019 pour que l'ENA, menacée de disparition par Emmanuel Macron, revoie ses programmes pour les faire coïncider davantage avec la vie réelle. Ce qui n'est pas inutile quand on prétend participer au destin de son pays, Sonia Princet.
Se rapprocher du terrain, montrer que l'ENA est en prise avec la réalité, c'est l'objectif de cette réforme de la scolarité. À partir du 1er janvier prochain, pour l'actuelle promotion, les enseignements seront organisés autour de compétences plutôt que de connaissances théoriques. Exemple, comment conduire une politique publique en tenant compte de tous les acteurs, en particulier des citoyens. Comment évaluer le besoin de transformation de la société en trouvant des solutions concrètes. Les précisions de Patrick Gérard, directeur de l'ENA.
On va leur dire à chaque fois quelles sont les conséquences des décisions qu'ils ont prises sur les Français. Qu'est-ce que cette décision, elle peut être prise très théorique, cette loi que vous écrivez, ce décret, cette solution budgétaire, qu'est-ce que ça change aux Français? Donc on va leur demander de faire beaucoup plus attention aux conséquences et à l'impact des décisions sur la vie des Français.
Mais pourquoi le faire maintenant alors que l'ENA est sur la sellette? Réponse du directeur.
Tant que les décisions finales ne sont pas prises sur l'école, son devenir, son association éventuelle avec d'autres écoles de services publics, eh bien, on a des élèves et donc on va améliorer le système. À nous de faire en sorte qu'ils soient le mieux préparés possible aux futures responsabilités qu'ils devront exercer.
Petit sursis pour l'école, non seulement aucune décision n'est prise pour le moment, mais la mission chargée de réfléchir à la suppression de l'ENA est prolongée jusqu'à fin janvier.
La mission confiée à Frédéric Thiriez, le patron de la Ligue de football. Les deux, l'ENA au foot, il n'y a donc qu'un pas qui nous amène à Madrid, où le PSG a fait match nul 2-2 face au Real hier soir. Pas folichon sur le terrain, les Parisiens, mais ils prennent la tête de leur groupe pour entamer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Il est 8h13. Savez-vous ce qu'est une Smart City, une ville intelligente?
C'est une ville qui utilise les nouvelles technologies, pas à la chinoise pour ficher ses habitants, mais pour optimiser ses ressources et ses coûts tout en étant utile aux citoyens. Paris que vient de se lancer Angers pour accélérer sa transition écologique. Il lui en coûtera 178 millions sur 12 ans. Delphine Evenou.
Lyon, Montpellier, Bordeaux l'expérimentaient déjà à l'échelle de quartier. Angers veut étendre le concept à toute sa métropole et ses 300 000 habitants et va donc installer des capteurs partout. Au-delà du classique éclairage selon le passage, Jean-Marc Verchère, adjoint au maire d'Angers en charge du projet Smart City, a plein d'autres idées.
À partir de mesures de flux sur des rues qui vont pas tarder à s'embouteiller, des déviations par des panneaux variables pour réorienter la circulation. En espace vert, gérer l'arrosage automatique en fonction de l'hygrométrie, c'est s'assurer qu'on n'arrose pas un matin alors qu'il a plu toute la nuit.
Des innovations qui existent déjà ailleurs, mais de façon éparse, Angers va concentrer ses efforts. Pour quelle efficacité? 100 millions d'euros d'économies sur 25 ans, table la mairie. Pas négligeable, mais la vigilance reste de mise, prévient le CEREMA, le centre d'études sur l'aménagement du territoire. Florent Boitiat y gère le dossier Territoires intelligents.
On parle des données, on parle de liberté de mouvement sans être forcément constamment surveillé, au risque d'exclusion aussi, qui
peut être généré par le passage au tout numérique, à la sécurité des systèmes. Hein, plus on déploie des systèmes informatiques, plus il faut faire attention à leur vulnérabilité.
La métropole d'Angers promet de mettre les citoyens à contribution. Ce sont d'ailleurs eux qui auront le dernier mot sur les nouveaux services dont ils bénéficieront.
Delphine Evenou, il n'est ni le premier ni le dernier Goncourt dont on fait un film. Chanson douce de Leïla Slimani, adaptée à l'écran aujourd'hui par Lucie Borletot. Et dans le rôle de la merveilleuse puis terrifiante nounou Karine Viard, suffit-elle Eva Bettan à faire de ce film un bon film ?
Une modification dans la chronologie qui est loin d'être un détail. Leïla Slimani, dans son roman, refusait le suspense. Elle disait tout de suite le drame, l'acte terrible. La réalisatrice, elle, choisit de dérouler l'histoire dans l'ordre, ce qui a une certaine efficacité, soit celle d'un jeune couple qui embauche une employée, bien sous tous les rapports, pour s'occuper de deux enfants en bas âge. Nous devrions traverser l'arc classique qui part du bonheur, des enfants bien nourris, une maison bien rangée, pour arriver à l'effroi, au rythme du dérèglement de l'attitude de la nounou. Nous sommes l'œil qui voit tout, nous voyons ce que les parents ne peuvent pas voir. Nous passons l'essentiel du film à observer une femme qui garde des enfants, ses moments de dérapage, parfois maladroitement montrés, et des parents qui ne voient pas des évidences sans que l'on entre dans la folie de l'une et dans l'aveuglement des autres. Le film sonne juste par éclat, par exemple dans la difficulté pour les parents à se percevoir comme des patrons, par éclat seulement.
Voilà, Eva Bettan, merci. Et à l'instant, on apprend que la cérémonie d'hommage national en mémoire des 13 militaires morts lundi soir au Mali aura lieu ce lundi aux Invalides.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et du vent ce matin, Marie-Pierre.
Et oui, aucune feuille ne va résister à ces rafales qui balayent tout le pays encore ce matin avec un ciel de traîne qui alterne averses orageuses et éclaircies de l'ouest aux régions de l'est jusqu'à 90 à 100 km/h près de la Manche et des côtes atlantiques jusqu'à 70 km/h des Landes aux Hauts-de-France au Jura. Attention aussi toujours aux vagues submersion entre la Gironde jusqu'à la Vendée à cause des grandes marées. Les pluies de l'ex-tempête Sébastien s'évacuent par l'est de la vallée du Rhône au Var à la Côte d'Azur à la Corse, cette pluie donnant de la neige hein, sur les Alpes des 1800 mètres d'altitude. En revanche, sur les régions du sud, entre la Côte Basque, au sud des Cévennes, à la Camargue, vous verrez le soleil se lever. Le jour s'est levé dans une douceur exceptionnelle. Au plus bas, il fait 8 à Toulouse, en Lozère ou à Strasbourg, alors qu'il fait déjà 11 à Lorient, à Lille, comme à Nice ou à Paris ou à Lyon et 16 à Marseille.
Et peu de changements dans l'après-midi.
Et oui, sur les deux tiers nord du pays, le ciel de traîne va se généraliser avec toujours de nombreuses averses, du vent encore plus fort sur près et des orages également près de la Manche, quelques rares éclaircies. En revanche, ce sera une belle amélioration dans le sud-est avec le retour du soleil, sauf en Corse où on aura encore quelques averses orageuses. Et puis en journée, on sera également au-dessus des normales de saison. Vous aurez 11 à Aurillac, 13 à Cherbourg, 14 à Paris, Rennes-Nevers, Pouilly-sur-Loire ou Chablis. Comptez 15 à Lyon, Bordeaux ou Albi, 17 à Saint-Jean-de-Luz comme à Avignon, 18 à Montpellier-Bastia. Et le maximum sera pour Cannes et Perpignan avec 19 degrés.
Marie-Pierre Planchon, merci. 8h18, c'est Géopolitique. Pierre Aski.
Le 7-9. Sur France Inter.
On y va, oui. Bonjour Pierre.
Bonjour Nicolas.
Vous revenez, Pierre, sur les victimes françaises du Mali.
Oui, les 13 morts dans un accident d'hélicoptère au cours d'une opération anti-djihadiste au Mali constituent le bilan le plus lourd pour l'armée française depuis l'embuscade d'Usbin en Afghanistan en 2008, qui avait fait 10 morts. Le parallèle avec l'Afghanistan revient régulièrement dès qu'on parle des guerres qui se déroulent dans la région du Sahel. Les comparaisons ont leurs limites, mais elles aident à comprendre ce qui se joue et de quelle manière. Vendredi, ici même, j'évoquais déjà un syndrome afghan en parlant de l'engagement français au Sahel. Syndrome afghan, c'est-à-dire une guerre impossible à gagner militairement, comme toutes les armées l'ont expérimenté depuis plus d'un siècle en Afghanistan. Mais aussi impossible à quitter en raison de la difficulté à mettre sur pied une alternative sécuritaire locale solide. C'est ce que réalise Donald Trump qui ne parvient pas à retirer ses troupes.
Et c'est une situation comparable au Sahel.
Dans une certaine mesure, oui, Nicolas. François Hollande, on s'en souvient, avait décidé d'intervenir au Mali en 2013 pour empêcher une colonne djihadiste de fondre sur Bamako. Sans trop de mal, l'armée française avait stoppé les djihadistes et reconquis les régions de Tombouctou et Gao. Les difficultés ont commencé après, car les djihadistes, tels une hydre, la comparaison est souvent faite, ne cessent de ressurgir là où on ne les attend pas. Ils n'ont cessé d'étendre leur rayon d'action meurtrière, jouant sur les complicités claniques, les contradictions ancestrales, les trafics en tout genre et la faiblesse des États postcoloniaux. Les 4500 soldats de l'opération Barkhane constituent de fait la principale force opérationnelle dans cette région et doivent intervenir dans une zone qui fait au moins 6 fois la France, désertique ou semi-désertique, c'est mission impossible.
Quelles sont donc les options ?
Comme en Afghanistan, si la victoire militaire est difficile, le départ l'est tout autant. Jean-Luc Mélenchon a certes demandé hier au gouvernement d'envisager les voies d'une sortie d'une guerre dont le sens échappe désormais à nombre de nos compatriotes et de Maliens eux-mêmes. Fin de citation. Pour autant, quel gouvernement prendrait la responsabilité de laisser le champ libre à des groupes terroristes comme Al-Qaïda ou l'État islamique, à Bamako comme à Kaboul? La stratégie française, inchangée depuis 2013, a été de pousser à l'africanisation de la lutte contre les djihadistes avec la constitution du G5 Sahel, regroupant les pays de la région. Mais cette démarche se heurte à la faiblesse des États et de leurs armées, d'où l'appel lancé par la ministre Florence Parly à l'aide de l'Europe pour la formation des armées africaines. L'autre parallèle avec l'Afghanistan, c'est la facilité avec laquelle on passe de libérateur à occupant aux yeux de la population locale. C'est un risque qui complique tout engagement militaire. C'est évidemment ce qu'espèrent et alimentent les djihadistes. Les militaires français sont bien conscients de ce syndrome afghan qui les met sur la corde raide. Les morts d'hier sont tragiquement là pour le leur rappeler.
Merci Pierre Aski. Dans un instant, on continue évidemment à en parler. Le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le chef d'état-major des armées, François Lecointre.
Ce soir, sur France Inter, c'est le groupe Coldplay qui inspire Very Good Trip.
21h, Mishka Assayas.
Le groupe le plus populaire au monde, Coldplay, est de retour. What in the world are we going to do? Son nouvel album, Everyday Life, est à la source d'un programme très mélodieux où la joie va triompher de la mélancolie sous une voûte étoilée.
Very Good Trip.
Ce soir, sur France Inter, à partir de 21h.
Waouh, merci papa, c'est exactement ce que je voulais.
Alors de rien, mais en fait c'est de la part du sapin. Mon cadeau à moi, c'est le t-shirt que tu veux mettre en pyjama. Ah.
Pour Noël, c'est le sapin qui régale. Dès le 27 novembre chez Ikea, pour tout achat d'un sapin Nordman à 24,99€, recevez un bon d'achat de 20€. Faites-vous plaisir avant l'heure. Ikea. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions sur Ikea.fr.
Il est 8h22.
France Inter. Première matinale de France. Léa Salamé, Nicolas Demorand.
Et avec Léa Salamé, nous recevons donc ce matin dans le grand entretien du 7-9 le chef d'état-major des armées. Suite au mouvement social que traverse Radio France, vous ne pourrez pas passer en direct à l'antenne, amis auditeurs, mais je lirai les questions que vous laisserez au standard au 01 45 24 7000. Passez autrement par les réseaux sociaux et l'application France Inter.